Bonsoir. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque, à tous et à toutes. En cette année mondiale de l'astronomie, nous sommes heureux d'accueillir M. Pierre Chastenet, astrophysicien, communicateur scientifique de renom et commissaire invité de l'exposition Virginia, messagère des étoiles. M. Chastenet nous entretiendra aujourd'hui de l'importance des découvertes du célèbre astronome italien Galileo Galilei, qui en 1609 pointa sa lunette astronomique vers le ciel étoilé et changea à jamais notre perception du cosmos. La rencontre sera suivie d'une période de questions. Je vous invite à profiter de cette opportunité d'échange avec M. Chastenet. Et si vous le désirez, à poursuivre l'exploration de l'univers en visitant l'exposition présentée dans l'espace jeune de la Grande Bibliothèque jusqu'au 25 octobre. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la conférence. Je vous remercie d'éteindre vos cellulaires et je vous souhaite à tous une excellente rencontre.
Bonsoir.
Alors, merci d'être présent ici ce soir. Vous avez d'autant plus de mérite que vous ratez deux événements extrêmement importants, ce qui va peut-être être la première victoire du Canadien au Forum cette saison. Quoique, si je me dépêche, vous avez peut-être le temps d'attraper la fin du match en rentrant chez vous. Et puis, ce que vous ratez aussi, c'est l'excellente émission Le Code Chastenet, qui est diffusée à Télé-Québec à 19h. Ma présence ici ce soir vous confirme que l'émission n'est pas présentée en direct, mais en différé. Ceci étant dit, vous pourrez voir le code Chastenet. Je suis en train de faire de la publicité comme un vendeur de savon, mais bref, nous sommes maintenant diffusés sur Internet. Les épisodes intégraux sont disponibles sur Internet et je vous encourage donc à aller visionner tout ça. Donc, comme ça a été dit en introduction, cette année 2009 est une année très spéciale. C'est l'année mondiale de l'astronomie telle que décrétée par l'Union astronomique internationale et l'UNESCO. Et l'année mondiale de l'astronomie célèbre la vie et l'œuvre d'un personnage extrêmement important dans l'histoire des sciences, dans l'histoire des idées. Je parle bien sûr de Galileo Galilei. Et au cours des 4 heures qui suivent, je vais vous parler en détail. Non, c'est une blague, ma conférence dure environ 50 minutes. Mais bref, je vais vous parler en détail de Galilée. Pas nécessairement de toute sa vie, parce que Galilée a fait plein de choses intéressantes et on pourrait en parler pendant des heures. Mais je vais me concentrer sur deux aspects de son travail, essentiellement ses recherches sur la chute des corps, qui a donné éventuellement naissance à la gravitation universelle de Newton, mais aussi, bien sûr, et c'est pour ça qu'il est célébré cette année, pour ses observations faites au télescope. Alors, commençons par une courte biographie. Galileo Galilei est né en 1564, il est mort en 1642. Il est mort à un âge relativement avancé pour un homme de son époque, où l'espérance de vie était beaucoup plus courte que ça, donc au 15e et au 16e siècle. Et il naît en 1564 de son père et de sa mère, évidemment, mais particulièrement de son père, Vincenzo Galilei, qui est un personnage important, non pas dans l'histoire des sciences, mais dans l'histoire de la musique. En fait, le père de Galilée était un très grand musicien, un très grand joueur de luth, un compositeur également. Et une bonne partie de la théorie musicale que l'on utilise encore aujourd'hui, les tierces, les accords majeurs, mineurs, et ainsi de suite, c'est à lui que nous le devons. Il a enseigné à jouer du luth à ses fils, Galileo et Michelangelo. Donc Galileo Galilei était un mathématicien, un savant et aussi un musicien. Et j'ai pensé, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, vous faire écouter une courte pièce qui est interprétée par M. Daniel Blanchette, qui est un musicien de Montréal. Une courte pièce qui a été composée par Vincenzo Galilei. Alors, ça va comme ceci. Thank you. m'adresser à mon ami le technicien quelques instants. Est-ce que ce serait possible de baisser un peu l'éclairage sur la scène? J'ai l'impression que le contraste sur l'écran n'est pas idéal. Est-ce que c'est dans le domaine du possible? Vous me direz si ça améliore votre situation, bien sûr. En attendant que ça se fasse, continuons. Donc, Galilée, compositeur important, je parle du père, bien sûr, est aussi connu pour avoir créé un art musical que moi, personnellement, je me laisse plutôt indifférent. Et j'ai parlé, bien sûr, de l'opéra. Avant de vous parler de Galilée, de son travail intellectuel, du moment où il a commencé à réfléchir et à essayer de comprendre le monde dans lequel il vivait, j'ai pensé que ça vaudrait la peine de prendre quelques minutes pour faire un bref retour sur ce qui était connu à l'époque, ce que les gens tenaient pour vrai en ce qui concerne le mécanisme de l'univers, à l'époque où Galilée donc a commencé à faire son travail. Et bien sûr, l'idée centrale qui allait dominer encore jusque dans les années où Galilée a commencé ses études universitaires, c'est le fait que la Terre est fixe. Elle est située au centre du monde, elle est parfaitement immuable et tous les autres objets célestes, ce qu'on appelait à l'époque les planètes, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, ce que nous appelons aujourd'hui les planètes et aussi les étoiles, tous ces objets-là tournaient autour de la Terre et donc nous étions le centre du monde. C'est une idée, vous vous en doutez, qui a été difficile à remettre en question pour bien des gens. On considérait également, selon la physique d'Aristote, que le monde était fait de quatre éléments. Donc, ce sont les éléments classiques, hein, l'eau, l'air, la terre, le feu. Tandis que tout ce qui était au-dessus de nos têtes, tout ce qui était dans le ciel, était fait d'une autre essence, ce qu'on a appelé éventuellement la quintessence, la cinquième essence. Et donc, il y avait vraiment une différence de nature très profonde entre ce qui était sur terre et qui était périssable, mortel, et ainsi de suite, et ce qui était, au contraire, dans les cieux, qui était parfait et immuable. Et ça aussi, c'est une idée avec laquelle on va devoir travailler et qui va être difficile à déboulonner. À partir de ces idées-là, il y a des gens, en particulier les Grecs de l'époque classique, ce qu'on appelait l'âge d'or de la Grèce antique, qui ont été capables de faire des observations absolument extraordinaires sans télescope et sans instrument de grande précision. Par exemple, on savait déjà au 3e et 2e siècle avant notre ère que le Soleil était situé plus loin de nous que la Lune. On avait réussi à mesurer ça. Ératosthène de Cyrène, en utilisant uniquement un rapporteur d'angle, avait réussi à mesurer la circonférence de la Terre. On savait que la Terre était ronde et on avait même été capable de mesurer sa circonférence pardon, avec une précision de l'ordre de à peu près 5%, ce qui était vraiment extraordinaire pour l'époque. Hipparque de Rhodes avait réussi à mesurer la distance Terre-Lune et il était arrivé à un résultat qui donnait donc 65 fois le rayon de la Terre. La valeur moderne, c'est 60 fois. Donc, encore une fois, un résultat très précis pour quelqu'un qui n'avait, comme tout instrument, qu'un rapporteur d'angle et une clepsydre, c'est-à-dire une horloge à eau. Toutes ces observations ont éventuellement été rassemblées par un autre astronome grec qui, lui, a vécu au 2e siècle de notre ère. C'est Claude Ptolémée, qui n'a pas nécessairement fait d'observations importante lui-même. Mais ce qu'il a fait, qui était très important, c'est de prendre toutes les connaissances astronomiques et mathématiques de son époque et de les rassembler en un ouvrage qu'il a appelé l'Almageste. En fait, il ne l'a pas appelé l'Almageste, mais les Arabes qui nous l'ont transmis l'ont appelé l'Almageste, ce qui veut dire le grand œuvre. Et en particulier, Ptolémée, pour organiser toutes les connaissances qu'avaient accumulées ses prédécesseurs, a conçu un système qu'on a appelé le système géocentrique ou le système de Ptolémée, qui lui permettait non seulement d'expliquer les mouvements complexes des planètes de la Lune et du Soleil dans le ciel, mais qui lui permettait aussi de faire des calculs et des prédictions pour dire, ben, si par exemple Vénus est dans cette région du ciel aujourd'hui, ben, dans un mois, elle va être rendue dans telle autre région du ciel. Et dans la limite de la précision des observations de son époque, le système de Ptolémée fonctionnait relativement bien. Alors, juste pour vous donner une idée, le système de Ptolémée, encore une fois, c'est la Terre qui est au centre, qui est fixe et immuable, et tout autour de la Terre tournent la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil et les autres planètes. Et pour tenir compte de certains mouvements complexes des planètes, comme les mouvements rétrogrades, par exemple, Ptolémée avait introduit un petit cercle qu'on appelle l'épicycle, sur lequel tournait la planète Mars ou Vénus ou peu importe. Et ce petit cercle-là était entraîné par un autre plus grand cercle qu'on appelait le déférent. Et donc, en se basant sur ce modèle mathématique, Ptolémée était capable de faire des prédictions qui, pour son époque, encore une fois, étaient relativement précises. Le problème, il est subvenu quelques siècles plus tard, parce qu'évidemment, en se basant sur le système géocentrique de Ptolémée, on pouvait calculer la position des planètes pour un avenir proche ou pour un avenir très lointain. Quelques siècles plus tard, des petites erreurs de prévision dans la position des planètes étaient devenues de très, très grandes erreurs. Et par exemple, au 13e siècle de notre ère, une table astronomique comme cette table Alphonsine donnait ou prévoyait des positions pour les planètes qui disaient qu'elles vont être dans telle région du ciel. Mais quand on sortait à l'extérieur et qu'on regardait effectivement dans cette région du ciel-là, on n'y voyait pas la planète qui était prévue. Vénus n'était pas là, elle était rendue là-bas. Il y avait clairement un problème dans le système géocentrique de Ptolémée qui faisait qu'on n'était plus capable de faire des prévisions soutenues par l'observation. Et donc, il y a des gens qui ont commencé à chercher des modèles alternatifs pour expliquer le mouvement des planètes. Tycho Brahe lui-même en avait conçu un, mais celui qui allait provoquer la plus grande révolution, si vous voulez, c'est le système de Copernic. Copernic s'est dit tout simplement, ce serait beaucoup plus simple si au lieu de placer la Terre au centre et de tout faire tourner autour de notre planète, on plaçait le Soleil au centre et qu'on faisait tourner autour du Soleil les planètes Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune qui tourne autour, Mars et ainsi de suite jusqu'à Saturne. Je vous rappelle que les autres planètes n'étaient pas encore connues à l'époque. Ce modèle-là était de la poudre à canon, surtout dans le contexte religieux très incertain et explosif de l'époque. Parce qu'évidemment, ça allait à l'encontre de ce que prêchait l'Église, qui disait qui était très heureuse que la Terre soit au centre de l'univers. C'était un peu normal, puisque Dieu avait envoyé son Fils et il ne pouvait pas l'avoir envoyé ailleurs qu'au centre de l'univers, ça, cela va de soi. Et donc, Copernic était terrorisé à l'idée de se faire persécuter, d'éventuellement peut-être souffrir sous la torture à cause de ses idées. Et donc, il a attendu jusqu'à l'extrême limite. En fait, il a publié son livre, il était sur son lit de mort. Je pense qu'il est mort 3 jours après que le livre ait été finalement publié. C'est vous dire à quel point ces idées-là étaient des idées dangereuses à cette époque particulière de notre histoire. Et donc, lorsque Galilée arrive au monde intellectuellement et qu'il commence à réfléchir à ces questions, il y a une véritable guerre qui fait rage entre deux grandes visions de l'univers, le modèle géocentrique de Ptolémée et le modèle héliocentrique de Copernic. Et c'est dans ce contexte, c'est dans cette atmosphère que Galilée va commencer à réfléchir à la façon dont le monde fonctionne autour de nous. Curieusement, lorsque Galilée entreprend ses études, à l'âge de 15 ans, il veut devenir moine. Son père n'est pas d'accord. Son père aimerait qu'il étudie la médecine, comme quoi, il y a 400 ans et aujourd'hui, les parents ont souvent de très, très grandes ambitions pour leurs enfants. Le père de Galilée savait très bien qu'un diplôme de médecin lui ouvrirait beaucoup plus de portes et qu'il gagnerait mieux sa vie que s'il était moine. Mais finalement, Galilée, à 17 ans, découvre sa véritable passion, c'est-à-dire les mathématiques. Et il va étudier les mathématiques jusqu'à 21 ans, quittant l'université sans diplôme, mais il commence à donner des cours privés. Et sa réputation en tant que professeur de mathématiques et mathématicien est telle qu'éventuellement, l'université le rappelle et lui offre un poste, même s'il n'a pas son diplôme, parce que c'est vraiment un crack des mathématiques. Il est à Pise à cette époque-là, il commence à étudier les lois du mouvement. Il s'intéresse à la mécanique, qui allait être une science très importante dans sa vie. Et en particulier, Galilée, qui était un bon catholique, qui allait à l'église régulièrement, se met à regarder l'oscillation du pendule dans la cathédrale de Pise. Le sermon était sans doute particulièrement ennuyeux, mais éventuellement, Galilée se met à observer les mouvements du pendule et d'une semaine à l'autre, il se met à mesurer la période d'oscillation du pendule. Évidemment, il n'y a pas d'horloge, il n'y a pas de montre non plus. Il utilise son pouls, qui est quand même un rythme relativement constant. Et donc, en utilisant son pouls comme instrument de mesure, il découvre la loi du pendule. La loi du pendule, c'est tout simplement le fait que la fréquence d'oscillation d'un pendule dépend uniquement de la longueur de la corde. Et vous pourrez faire l'expérience chez vous avec des masses de différents poids, avec des cordes de différentes longueurs, et vous allez vous apercevoir que la fréquence d'oscillation, donc le mouvement de va-et-vient du pendule, dépend uniquement de la longueur de la corde et non pas de la masse ou de l'amplitude du mouvement. Et en fait, cette découverte-là, donne à Galilée plusieurs idées. Parce que Galilée, toute sa vie, et on va y revenir régulièrement dans le cadre de la présentation, Galilée, toute sa vie, va souffrir d'un manque d'argent. Il a besoin d'argent parce qu'il mène un train de vie quand même assez confortable, mais aussi il a besoin d'argent pour payer ses assistants, pour faire vivre sa famille, ainsi de suite. Et donc, d'un point de vue pratico-pratique, il se dit, on pourrait utiliser le mouvement du pendule pour en faire une horloge. Et donc, le père des horloges grand-père, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Galilée, qui a déjà conçu le modèle qui va être ensuite raffiné par Huygens et puis par tous les horlogers suisses qui vont suivre. Galilée, lorsqu'il est à Pise, réalise aussi beaucoup d'expériences sur la chute des corps. Je vous ai dit qu'il s'intéressait à la mécanique. Et en particulier, il remettait beaucoup en question la mécanique d'Aristote ou la physique d'Aristote. Aristote était considéré à cette époque-là comme le père de toutes les sciences, et ce qu'Aristote avait écrit dans ses traités de physique et d'autres sciences, c'était parole d'évangile. On ne pouvait pas remettre ça en question. Et Aristote avait écrit dans sa physique ou dans sa mécanique que les objets plus lourds tombaient plus rapidement que les objets plus légers. Et puis, a priori, ça semble faire sens. On se dit, ben oui, s'ils sont plus lourds, ils sont plus attirés, donc ils tombent plus rapidement. Mais Galilée, lui, avait tendance, parce qu'il était un peu tête de cochon, à remettre les choses en question et à se dire, ben, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas l'expérience de vérifier si c'est effectivement comme ça que ça se passe? Et selon la légende, Galilée serait monté au sommet de la tour de Pise avec des boulets de canon de différents poids et les aurait laissés tomber au sol où des assistants auraient vérifié si effectivement un tombait plus vite que l'autre. Alors, si vous voulez, on va faire l'expérience nous-mêmes ce soir. Alors, j'ai ici deux poids. Évidemment, parce que je donne une conférence, il n'y a absolument personne d'assis dans les rangées en avant. Sinon, j'aurais demandé à un volontaire de venir confirmer que ce poids est beaucoup plus lourd que celui-ci. Vous êtes obligé de me croire sur parole. Et donc, je vous pose la question à vous, citoyens du 21e siècle. Si je laisse tomber ces deux masses, est-ce qu'il y en a une qui va arriver au sol en premier? Qui pense que la plus lourde va arriver au sol en premier? Qui pense que ça va être la plus légère? Soyez pas gênés, là. On ne vous reconnaîtra pas dans la rue. Qui pensent au contraire qu'ils vont arriver au sol en même temps. Je vous rappelle que, selon la physique d'Aristote, ce poids beaucoup plus lourd devrait arriver au sol en premier. Alors, faisons comme Galilée, faisons l'expérience. Alors, vous êtes prêts, vous observez bien à mes pieds. Alors, on compte en italien, parce que Galilée est un italien. Alors, 3, 2, 1, 0. Alors, lequel est arrivé au sol en premier? Les deux sont arrivés au sol en même temps. Je vous ai dit que la tour de Pise et les boulettes de canon, c'était une légende. En fait, on sait que Galilée a fait ses observations sur des plans inclinés. C'est-à-dire qu'il avait des billes de différentes masses, des billes de métal, des billes de bois, et ainsi de suite, et il les faisait rouler le long du plan incliné. Et les petites clochettes à intervalles réguliers, c'était pour mesurer le passage de chacune des billes. Et ce que Galilée voulait vérifier, entre autres, c'est de quoi était composé ce mouvement qui semblait se faire de plus en plus rapidement au fur et à mesure que la bille roulait le long du plan incliné. Et une façon de le mesurer qui est extrêmement ingénieuse, c'était de disposer les petites clochettes à intervalles plus ou moins réguliers jusqu'à ce que, lorsque la boule roulait le long du plan incliné, elle fasse « ding, 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 ding » et qu'il y ait un intervalle constant entre les « ding », entre les sons des clochettes. Et c'est de cette manière-là que Galilée a découvert que le mouvement de la bille le long du plan incliné était accéléré. La bille allait de plus en plus vite. Ce sont ce genre d'expériences-là qui ont donné la puce à l'oreille, entre autres à Newton, pour la suite des choses. Mais à son époque, Galilée avait des détracteurs. Il avait des ennemis scientifiques qui, entre autres, n'acceptaient pas qu'il remette en question les idées du grand Aristote. Et en particulier, certains de ses détracteurs ont dit à Galilée, suite à ses expériences sur la chute des corps, « Cher Galilée, que se passerait-il si, au lieu de laisser tomber deux poids, je laissais tomber un poids et une plume? Est-ce que la plume n'arriverait pas au sol en dernier? » En effet, Galilée avait beau argumenter que le problème, c'était la résistance de l'air qui freinait la plume. Ses détracteurs ne voulaient rien entendre et lui disaient, « Écoute, si c'est si bon pour faire des expériences, fais-nous donc une expérience où la plume va tomber au même rythme que le poids. » Puis, si tu n'es pas capable, screw you. On voyait que les choses n'étaient pas toujours faciles pour notre ami Galilée. Mais bref, cette expérience de la plume et du poids que Galilée n'a jamais pu exécuter de son vivant, ça a donné l'idée aux astronautes d'Apollo 15 de tenter l'expérience sur la Lune, où on sait qu'en absence d'atmosphère, il n'y a pas de résistance lorsqu'un objet est en chute libre. Et donc, ce que je vais vous montrer, c'est un extrait d'une émission de télé qui a été diffusée depuis la Lune par l'équipe des astronautes d'Apollo 15. Et ce que vous allez voir, c'est l'astronaute David Scott, donc le capitaine de la mission Apollo 15, qui tient dans sa main un marteau et une plume. Et il va vous expliquer qu'il s'agit d'une plume de faucon parce qu'en réalité, le nom de leur module lunaire, c'était le Falcon. Et il dit qu'une des raisons pour lesquelles ils ont réussi à se rendre sur la Lune, c'est parce qu'un certain monsieur Galilée a fait des expériences sur la chute des corps il y a très longtemps qui ont mené à la découverte des lois de la nature. Et donc, il va faire l'expérience et je vous laisse juger par vous-même si, oui ou non, la plume et le marteau arrivent en même temps.
Not quite yet. I haven't put the solar wind in yet, but I will shortly. I want to watch this. Joe, okay. You have a good picture there. I've got the...
Beautiful picture, Dave.
Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that?
Which
proves that Mr. Galileo was correct in his findings.
Alors, vous imaginez la réaction de Galilée s'il avait pu voir ce genre de choses. Il aurait sans doute dit à ses ennemis scientifiques, « Allez vous faire cuire un œuf. » Je vous ai parlé des problèmes financiers que Galilée connaîtra toute sa vie. La situation va se détériorer particulièrement à partir de l'âge de 27 ans parce que Galilée perd son père. Bien sûr, c'est toujours triste de perdre son père, surtout qu'il avait une relation très étroite avec lui. Mais dans le cas de Galilée, de sa situation financière et matérielle, ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, il était chef de famille. Et donc, il devait s'occuper non seulement de ses enfants et de sa femme, mais en plus, de s'occuper de sa mère, qui elle aussi aimait mener grand train, et de son frère Michelangelo, qui était un musicien, donc sans le sou et sans travail. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, Galilée s'est mis à chercher une meilleure situation dans le but d'améliorer sa condition matérielle. Et à 28 ans, il va quitter Pise, qui était près de Florence, pour s'en aller vers l'université de Padoue, qui, elle, relevait de la République de Venise. Padoue, ce n'est pas très loin de Venise sur le continent, donc où il va gagner un meilleur salaire et pouvoir continuer à payer ses assistants et pour toute sa marmaille. À 36 ans, il entreprend une relation hors mariage avec une jeune femme de 22 ans, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque, dont il aura deux filles et un fils, ce qui fait que sa famille augmente encore et ses charges aussi. Donc, Galilée va se mettre à chercher intensivement des choses à inventer, des choses à vendre pour pouvoir faire de l'argent. En particulier, il va inventer le compas militaire. C'est cet instrument-là qui ressemble un peu à un rapporteur d'angle, mais qui est en fait l'ancêtre de notre règle à calcul. Pour les plus vieux d'entre vous, je pense que vous savez de quoi je parle. Sinon, c'est l'avant-ancêtre de la calculette qu'on a tous dans nos poches. Donc, il va inventer le compas militaire. Il va également écrire un traité pour apprendre à ses utilisateurs comment utiliser la chose. Mais l'invention pour laquelle Galilée est certainement le plus célèbre, et c'est aussi l'invention pour laquelle nous le célébrons cette année, c'est bien sûr l'invention du télescope. Alors, il y a deux faussetés qui circulent à propos de Galilée et du télescope. La première, c'est que Galilée a inventé le télescope. C'est faux. En fait, Galilée n'a pas inventé le télescope. C'est un Hollandais du nom de Hans Lippershey qui a conçu une lunette d'approche. Il a d'ailleurs tenté de la breveter déjà en 1607, donc 2 ans avant que Galilée ne construise les siennes. Il n'a pas réussi à obtenir de brevet, mais il en a quand même vendu pas mal. Et c'est à travers ses correspondants européens que Galilée a entendu parler de l'instrument. Et simplement sur la base des descriptions qu'il en a lues dans les lettres qu'il recevait de ses collègues, et avec, bien sûr, les fonderies de verre de Murano tout près, qui lui fournissaient la matière première pour fabriquer les lentilles, Galilée a fabriqué sa première lunette en 1609. Et pour son plus grand mérite, elle était de bien meilleure qualité que celle que Lippershey pouvait fabriquer au même moment. Donc, la première fausseté, c'est que Galilée n'a pas inventé le télescope, mais il l'a fortement amélioré. On peut lui donner ce crédit. La deuxième fausseté, c'est que Galilée a été le premier être humain à observer le ciel au télescope. Ça aussi, c'est faux. On sait qu'un Anglais du nom de Thomas Harriot a observé la Lune à l'aide d'une lunette de l'hypercher dès le début de l'été 1609, donc quelques mois avant que Galilée fasse ses premières observations. D'ailleurs, c'est très drôle parce que lorsque l'Union astronomique internationale a commencé à discuter de l'année mondiale de l'astronomie en 2009, il y a une délégation anglaise qui a fait des efforts démesurés pour tenter de les convaincre de célébrer Galilée et Harriot. Ça n'a pas marché, de toute évidence. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est que Harriot, même s'il était le premier, n'a pas parlé à grand monde de ses observations, alors que Galilée, lui, au contraire, dès qu'il a fait ses premières observations, a voulu les partager avec le plus grand nombre, et donc il a eu la paternité des premières observations du ciel au télescope. Mais pour la petite histoire, Galilée, lorsqu'il a eu construit sa première lunette, son premier réflexe, ça n'a pas été de le tourner vers le ciel, parce qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec un instrument qui regardait les étoiles. En fait, il est allé voir le doge de Venise avec son invention et il lui a présenté comme un instrument militaire permettant de voir les navires ennemis bien avant que ceux-ci ne puissent vous voir. Le doge était tellement impressionné par son invention qu'il lui a donné le double de ses gages, un poste permanent à l'université. Galilée a failli perdre la tête, littéralement, quelques semaines après parce que un navire est arrivé dans le port de Venise et dans ses cales, il avait une caisse pleine des lunettes de l'hypercher. Et donc le doge, se rendant compte qu'il s'était fait un peu rouler dans la farine, était un peu déçu, mais quand il a vu la qualité ou la piètre qualité des lunettes de l'hypercher comparée à celles que Galilée lui avait vendues, finalement il s'est dit qu'il avait fait une bonne affaire. Et bref, l'histoire de Galilée aurait pu s'arrêter à ce moment-là. Donc ça, c'était en août 1609 que Galilée a présenté son invention au doge de Venise. Et c'est quelques mois plus tard, et là, les historiens ne s'entendent pas sur la date exacte, parce que malheureusement, Galilée n'a pas noté le moment où il a fait ses premières observations du ciel au télescope, mais quelque part à l'automne 1609, peut-être un 20 octobre 1609, qui sait, Galilée a tourné sa lunette vers le ciel et l'histoire du monde a changé. Le premier objet que Galilée a observé avec son instrument, c'est la Lune. Il faudrait peut-être que je vous le montre, le télescope. Je l'avais sorti d'ailleurs de son emballage, puis je suis en train de complètement l'oublier. Je suis désolé, je me suis laissé emporter par mon sujet. Alors, ce que j'ai ici dans mes mains, c'est une réplique exacte et fonctionnelle du premier télescope de Galilée. C'est un instrument qui grossit environ 20 fois. Vous voyez que son diamètre n'est pas très important quand on le compare avec les grands télescopes d'amateurs que l'on voit aujourd'hui, des télescopes qui mesurent 8, 10, 12 pouces de diamètre. Ce qui est très particulier lorsqu'on observe avec un instrument comme celui-ci, c'est la petitesse du champ de vision. Quand on pointe ça vers la Lune ou vers un autre objet céleste, vous avez vraiment l'impression de regarder à travers une paille, parce que le diamètre d'ouverture est très restreint. Je pense que vous êtes capable de voir la lentille, sinon vous pourrez vous approcher tout à l'heure après la conférence. Et la façon dont le système optique est fait, parce qu'essentiellement il y a une lentille à chaque bout, ça donne vraiment un champ de vision extrêmement restreint. Et ça faisait en sorte que lorsque Galilée faisait des observations du ciel avec son instrument, par exemple la Lune, qui était le premier objet qu'il a observé, ben jamais Galilée, à travers son télescope, n'a eu une vision complète de la Lune, comme nous pouvons en avoir aujourd'hui avec des jumelles ou avec un télescope d'amateur. Il ne voyait qu'une toute petite partie de la Lune. Et donc, pour faire les dessins qu'il en a fait, il faut imaginer la patience que ça a pris. Il observait la Lune, il dessinait ce qu'il voyait, et là, il déplaçait légèrement son télescope vers la gauche pour dessiner ce qu'il y avait à gauche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive au bord de la Lune. Et ensuite, il revenait, il montait un peu, puis il faisait le même stratagème. Et donc, il balayait la surface de la Lune pour pouvoir la dessiner comme ce que vous voyez là. Et il ne dessinait pas n'importe quoi. La preuve, c'est ce dessin qui est absolument extraordinaire, qui montre bien... Ici, les mers lunaires, je ne me souviens jamais des noms, mais bref, regardez bien ces mers, voyez leur configuration, et regardez quand on compare avec une photographie de la Lune. Vous voyez, ce sont les mêmes mers lunaires que l'on voyait sur le dessin de Galilée. Le cratère qui est ici, fortement exagéré, correspond vraisemblablement à ce cratère-ci. Donc, Galilée était vraiment un très, très bon observateur qui arrivait à faire des miracles avec un instrument vraiment rudimentaire. Ce qui a beaucoup intrigué Galilée, et on les voit ici sur la photo, ce sont des petits points de lumière, des petits points blancs, qui apparaissent du côté sombre du Terminator. Le Terminator sur la Lune, ce n'est pas Arnold Schwarzenegger, c'est la partie ici qui sépare, enfin la ligne qui sépare la partie éclairée de la partie non éclairée. Et ce que Galilée avait constaté, c'est qu'il y avait à l'intérieur de la zone sombre de la Lune des points blancs qu'il a correctement interprétés comme le sommet de montagne éclairé par le soleil, mais dont la base est encore dans l'ombre. Et par triangulation, par trigonométrie, Galilée a été en mesure de mesurer l'altitude de ces montagnes-là. Et il s'est rendu compte qu'il y avait sur la Lune des montagnes aussi hautes que sur Terre. Et donc, contrairement à ce qu'Aristote avait toujours dit, que la Lune était lisse et parfaite, comme le Soleil, comme les planètes, qui étaient la quintessence, bien, à travers son télescope, Galilée découvrait que la Lune était semblable à la Terre. Il y avait des montagnes, il y avait des vallées, il y avait des cratères. Aristote avait tort. Au tout début de 1610, Galilée tourne son télescope vers Jupiter. Et là, il a un choc. Ce qu'il découvre autour de Jupiter, ce sont des astres qui, d'une nuit à l'autre, changent de position, mais restent toujours compagnons de Jupiter. Ces astres, nous savons aujourd'hui qu'il s'agit de quatre lunes, les lunes de Jupiter, qu'on appelle aujourd'hui les lunes galiléennes, mais qu'à l'époque, il a appelé les astres médicéens, en l'honneur de Cosmo de Médicis, qui était son protecteur à Florence. On en sait beaucoup plus sur les satellites galiléens, entre autres grâce à la sonde Galileo, qui a été placée en orbite autour de Jupiter à la fin des années 90, et qui nous a permis de découvrir qu'il s'agit en fait de quatre mondes en soi, quatre lunes qui portent les noms de Io, que j'appelle souvent la pizza de l'espace, Europe, dont la surface glacée cache peut-être un océan d'eau liquide, où il pourrait y avoir des formes de vie primitives, Ganymède, qui est un des plus gros satellites du système solaire, et Callisto, qui est un peu le petit frère ou la petite sœur de Ganymède. Alors, la découverte des satellites de Jupiter est un autre coup dur pour la physique d'Aristote et pour le système géocentrique de Ptolémée. Parce que dans cette vision du monde, la Terre est le centre absolu de l'univers et tout doit tourner autour de la Terre. Or, voilà quatre mondes, quatre lunes, qui de toute évidence tournent autour d'un autre centre que la Terre. Et Galilée se dit, si des lunes tournent autour d'un autre centre que la Terre, bien peut-être qu'il y en a plein d'autres objets qui tournent autour d'un autre centre que la Terre. Et il commence à réfléchir au système de Copernic en se disant, bien peut-être que Copernic avait raison finalement. En poursuivant ses observations, Galilée éventuellement observe Vénus, qui devient visible au-dessus de l'horizon. Et là, il a un autre choc, décidément, une chance que son cœur était solide. Il constate que Vénus montre des phases, comme notre Lune. Et non seulement Vénus présente des phases, mais la séquence des phases est très particulière. Lorsque Vénus apparaît très grande, elle est un mince croissant. Mais lorsque Vénus est toute petite, elle est ronde. Et en fait, une telle séquence de phases, dans le cas de Vénus, ne peut s'expliquer dans le système géocentrique de Ptolémée, c'est impossible. La seule explication possible pour les phases que Galilée observe, c'est que Vénus tourne autour du Soleil et non de la Terre, et que, vu de la Terre, nous voyons la portion éclairée de Vénus sous différents angles, ce qui donne les phases. Lorsque Vénus passe de l'autre côté du Soleil et qu'elle est suffisamment haute pour qu'on puisse la voir, elle nous apparaît ronde. Lorsque Vénus passe entre le Soleil et la Terre, on peut voir un mince croissant de Vénus. De toute évidence, il y a quelque chose qui cloche dans le système de Ptolémée. Parce que voilà que non seulement il y a des objets qui tournent autour de Jupiter, mais il y a des objets qui tournent autour du Soleil. Et c'est relativement facile pour Galilée, avec son esprit de libre penseur, de se dire, bien, si Vénus tourne autour du Soleil, alors la Terre tourne autour du Soleil et toutes les autres planètes tournent autour du Soleil. Et c'est là qu'il aurait dit le fameux « et pour se mouver, la Terre bouge ». Parce qu'évidemment, si la Terre tourne autour du Soleil en un an, elle doit également tourner sur elle-même en 24 heures pour tenir, enfin expliquer le mouvement du Soleil, de la Lune et des étoiles dans le ciel. Poursuivant ses observations, Galilée tourne son télescope vers Saturne. Et là, il est plutôt intrigué, parce qu'à travers son instrument rudimentaire, qui ne sera jamais suffisamment puissant pour lui montrer une meilleure image de Saturne, il ne comprendra jamais ce qu'il observe. Et en fait, dans ses dessins, les anneaux de Saturne, puisque c'est de ça dont il s'agit, sont tour à tour présentés comme des poignées ou des anses de chaque côté de la planète, ou alors comme deux sphères collées sur la partie centrale de Saturne. Et jusqu'à la fin de sa vie, Galilée ne comprendra pas ce qu'il a observé en regardant Saturne. Aujourd'hui, on sait qu'il s'agit bel et bien des anneaux, mais son télescope n'a jamais été assez puissant pour lui montrer des détails qui lui auraient permis de comprendre qu'il s'agissait d'anneaux. Galilée a aussi tourné son télescope vers les étoiles. Et là, il a fait une découverte, encore une fois, remarquable. La découverte qu'à travers son télescope, il voyait plus d'étoiles que ce qu'on voyait à l'œil nu. Il y avait donc dans le ciel plus d'étoiles que ce que l'on croyait jusque-là. C'était vrai lorsqu'il observait les Pléiades. C'était vrai également lorsqu'il observait dans la région de la nébuleuse d'Orion, sous les trois étoiles qui forment la ceinture d'Orion, très belle constellation qu'on voit dans le ciel de l'hiver, ou à ce moment-ci de l'année si vous êtes vraiment des lève-tôt. Et le choc de tous les autres chocs, c'est bien sûr lorsqu'il a observé la Voie lactée avec son instrument, parce que là, il s'est rendu compte que la Voie lactée, ce n'était pas une espèce de nuage de vapeur ou une nuée céleste, c'était des étoiles. Mais un nombre tellement grand d'étoiles, toutes collées les unes sur les autres, que lorsqu'on les observait à l'œil nu, elles donnaient l'impression d'un voile continu. Mais à travers son télescope, Galilée a compris qu'il s'agissait d'étoiles individuelles trop nombreuses pour qu'on puisse les compter. Et en fait, on sait aujourd'hui que lorsqu'on regarde la Voie lactée, on regarde dans le fond, dans le plan de notre galaxie. Et on voit la lumière accumulée de centaines de millions, sinon de milliards d'étoiles. Galilée a fait de l'observation le jour. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, il n'est pas devenu aveugle parce qu'il observait le soleil directement au télescope. Il n'était pas fou. En fait, il est probablement devenu aveugle suite à une maladie des yeux, glaucome ou quelque chose du genre. Ça, c'est une autre histoire. En observant le soleil par projection, Galilée a découvert qu'il y avait des taches à la surface du soleil. D'autres avant lui avaient observé le phénomène, mais avait interprété ça comme étant des nuages dans la très haute atmosphère de la Terre ou des planètes qui étaient situées entre le Soleil et nous et qui projetaient leur ombre sur notre étoile, ou enfin qu'on voyait en silhouette. Mais Galilée a compris qu'il s'agissait bel et bien de taches à la surface du Soleil. Et on sait aujourd'hui qu'il a effectivement observé ce qu'on appelle encore aujourd'hui des taches solaires. Des taches solaires qui sont essentiellement des régions du Soleil plus froides que le reste de la surface. Alors ici, la température est d'environ 5500 degrés, et ici, plutôt 4500 degrés. Et la différence de température fait que, par contraste, cette région nous apparaît beaucoup plus sombre. On parle de quelque chose de gros quand on parle d'une tache solaire. Pour vous donner une idée, voici la Terre à l'échelle à côté d'une tache de taille normale. Il y en a des beaucoup plus grosses que ça. Et donc, Galilée a observé des taches solaires et il a poursuivi ses observations pendant plusieurs jours. Et il a fait une autre découverte extraordinaire, à savoir que le Soleil tourne sur lui-même. Le Soleil tourne sur lui-même, entraînant les taches dans son mouvement. Et en suivant ces taches-là, Galilée a été capable de mesurer la période de rotation du Soleil sur lui-même, qui équivaut à une trentaine de jours à peu près. Donc, ça venait confirmer encore une fois son idée que la Terre tournait autour du Soleil, qu'elle tournait sur elle-même. Même le Soleil tournait sur lui-même, alors pourquoi pas la Terre? Galilée a passé sa vie à faire des observations, il a pris des notes. Ces notes-là sont analysées encore aujourd'hui par des historiens. Et il y a une de ces notes prises au début de l'année 1612 qui a attiré l'attention des historiens récemment, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Galilée avait fait une découverte dont lui-même ne s'est jamais rendu compte. Alors, il s'agissait d'une observation de Jupiter et ses satellites, faite donc en janvier 1612. Et Galilée note sur son dessin, à l'échelle, la position d'une étoile fixe, qui lui apparaît particulièrement brillante à travers son télescope. Avec des logiciels d'astronomie, on est capable aujourd'hui de reproduire cette observation que Galilée a faite. Donc, vous remarquez Jupiter, les satellites sont dans la même configuration. Et il s'avère que cet objet ici que Galilée a observé, c'est la planète Neptune. Et donc, en 1612, Galilée est passé à un cheveu de faire la découverte qui l'aurait rendu non plus célèbre, mais comme big, une nouvelle planète. Et donc, Galilée, malheureusement, n'ayant pas poursuivi ses observations, n'a pas vu que cet objet-là, qu'il a pris pour une étoile fixe, était en réalité en mouvement par rapport aux étoiles lointaines. Il aurait fallu qu'il l'observe pendant plusieurs semaines pour pouvoir le constater. Donc, on peut lui donner le crédit. Et en fin de compte, c'est Le Verrier, le Français Le Verrier et l'Allemand Gall qui vont découvrir Neptune en 1846, donc quand même près de deux siècles plus tard. Plus de deux siècles plus tard. Toutes ces observations que Galilée a faites, contrairement à Harriot, il ne les a pas gardées pour lui-même. Il a voulu les partager avec le plus grand nombre, d'une part parce qu'il était fasciné par ce qu'il observait, et d'autre part parce qu'il avait un œil sur la postérité. Il voulait être sûr qu'on considère ses observations comme étant les premières faites au télescope. Et donc, il a publié en 1610, donc tout juste après ses observations de la Lune, de Jupiter et des étoiles, le Sidereus Nuncius, son premier livre, peut-être son ouvrage le plus célèbre, Sidereus Nuncius, qui en latin veut dire « le messager des étoiles », et dans lequel il présente les observations faites avec un nouvel instrument qu'il a appelé le Perspicilli, à défaut d'autres noms, parce que le nom télescope est arrivé plus tard. Et cet ouvrage-là l'a rendu célèbre. Tellement célèbre qu'il a même été invité à Rome, où les astronomes du Vatican l'ont accueilli comme un héros, et ont regardé à travers son télescope et ont été éblouis par ce qu'ils ont vu à travers l'instrument de Galilée et ont confirmé les observations qu'il avait faites. Bref, Galilée, à ce moment-là, était véritablement au sommet de sa gloire. Galilée était non seulement un savant qui publiait donc dans la langue latine, qui est un peu l'anglais de l'époque, mais c'était aussi un vulgarisateur scientifique, parce que Galilée voulait que le plus grand nombre de gens possible soient au courant des découvertes qu'il faisait et de la révolution que c'était en train de provoquer. Et donc, il s'est mis à écrire également des livres en latin qui s'adressaient donc à tous les italophones de l'époque, qui n'étaient pas tellement nombreux, mais quand même plus nombreux que ceux qui parlaient latin. Donc, Galilée était célébré, c'est un savant célèbre, tout le monde voulait être pris en photo avec lui. Mais les choses ont commencé à mal tourner pour Galilée. Et là, je fais des bonds en avant, l'histoire est plus complexe que ça, mais je résume. Les choses ont commencé à mal aller pour Galilée au moment où son ami, le cardinal Barberini, est devenu le pape Urbain VIII. Le cardinal Barberini était un grand admirateur de Galilée. Et lorsqu'il est devenu pape, parce qu'il voyait bien qu'il y avait toujours ce débat latent entre le géocentrisme et l'héliocentrisme qui faisait rage, il a demandé à Galilée, qui était sans doute le savant le plus connu de son époque, d'écrire un livre dans lequel il présenterait de façon objective les deux grands systèmes du monde, pour présenter les pour et les contre de chacun, en laissant le soin au lecteur de juger par lui-même lequel des deux systèmes était le meilleur. Alors Galilée a accepté l'offre de son ancien protecteur, en se disant « je vais essayer de faire plaisir au pape », mais ça pas vraiment bien tourné. En fait, Galilée, pour écrire son livre, a utilisé une forme littéraire relativement nouvelle, celle du dialogue. En fait, ce n'était pas vraiment nouveau parce que Platon, Aristote s'y étaient employés aussi beaucoup à l'époque. Mais bref, sous forme de dialogue, Galilée a mis en scène trois personnages. Il y avait Salviati, qui représentait le système copernicien. Il y avait Simplicio, qui lui représentait le système ptoléméen. Et quand on parle de Simplicio en Italie, ça fait souvent simple d'esprit. Donc, le jupon dépassait un petit peu dans le cas de Galilée. Et les deux protagonistes étaient séparés ou arbitrés par Sagredo, qui était un arbitre neutre. Et donc, lorsque le livre a été publié, Galilée en a envoyé, bien sûr, une copie au pape. Et là, le pape a commencé à lire le livre et il est entré dans une colère indescriptible. Pour la simple et bonne raison que Galilée, vraiment pas subtil, avait mis dans la bouche de Simplicio des remarques que le pape lui-même avait dites à propos du système de Copernic et du système de Galilée. Tourné en ridicule de cette manière, le pape n'était vraiment pas content et a téléphoné à l'Inquisition en disant « Occupez-vous de son cas, il m'énerve ». Et donc, Galilée a été convoqué devant l'Inquisition et accusé d'hérésie. Et on lui a offert le choix. Soit que tu abjures tout ce que tu as enseigné et professé à propos du système de Copernic et puis de la Terre qui bouge et ainsi de suite, ou soit on te présente les instruments de torture et vous allez devenir très intime, lui et vous. Il y a deux façons de juger la réaction de Galilée à cette époque-là, qui était déjà un homme âgé et malade. Il y a des gens qui disent qu'il a eu peur, que c'était un couillard et que finalement, il a abandonné ses idées. D'autres qui disent, de toute façon, avec ce qu'il avait écrit et puis sa renommée au-delà des frontières de l'Italie, ses idées lui auraient survécu de toute façon et il n'y avait rien à gagner à subir tous ces tourments aux mains de l'Inquisition. Et donc, Galilée a décidé, lorsqu'on lui a fait un procès, de lire l'abjuration que je vous présente ici, en fait, qui est un résumé, qui dit essentiellement « Moi, Galilée, en mon âge de 70 ans, je vous disais qu'il était déjà âgé. J'abjure, maudit et déteste avec une foi non feinte la fausse opinion selon laquelle le soleil serait le centre du monde et immobile et la terre n'en serait pas le centre et serait mobile, ce qui est l'héliocentrisme. Je jure que j'ai toujours cru, que je crois à présent et qu'avec l'aide de Dieu, je croirai pour l'avenir tout ce que tient, prêche et enseigne la très sainte Église catholique et apostolique. Parenthèse, j'étais en voiture aujourd'hui, j'écoutais la radio et le Vatican vient d'inaugurer, je pense que l'inauguration avait lieu aujourd'hui, une nouvelle exposition dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie sur Galilée, ses instruments d'observation, bref, tout ce qui a trait à Galilée qui était dans les voûtes du Vatican. Et il y avait interviewé un cardinal qui a étudié le procès de Galilée pendant 20 ans et qui disait essentiellement « L'Église s'est mis le doigt dans l'œil, on n'avait aucune raison d'accuser Galilée d'hérésie, on s'est excusé, mais vraiment, ce n'était pas un moment très glorieux pour l'Église catholique. » Fait de la parenthèse. Je vous laisse juger par vous-même. En fait, Galilée n'a jamais prétendu jouer sur le terrain des théologiens. Et ce qu'il disait essentiellement, c'est que le Saint-Esprit nous enseigne comment on va au ciel et non pas comment va le ciel. Et dans l'esprit de Galilée, puis ça c'est très important de le comprendre, et c'est pour ça que c'est un personnage si important dans l'histoire des sciences, c'est que Galilée, contrairement à bien de ses prédécesseurs, se disait « Ce ne sont pas les saintes Écritures qui vont nous dire comment fonctionne le monde, ce ne sont même pas les anciens et les écrits d'Aristote, Platon et les autres. C'est l'expérience, c'est l'observation, c'est notre interrogation de la nature qui va nous dire comment la nature fonctionne. » Et de ce point de vue-là, Galilée est vraiment le père de la méthode scientifique. Et dans l'histoire des sciences, il y a avant Galilée et il y a après Galilée. Et c'est pourquoi nous le célébrons cette année. Après son abjuration, Galilée croyait qu'il en avait fini avec la Sainte Inquisition, mais malheureusement non. En fait, il a été assigné à résidence à partir de ce moment-là jusqu'à la fin de ses jours. Donc, pendant près de 10 ans, il a vécu cloîtré dans sa maison, ce qui ne l'a pas empêché de travailler sous le manteau essentiellement. Excusez-moi, on va passer à la suivante. Voilà. Travailler sous le manteau. Il y avait peu de gens qui pouvaient le visiter, mais son assistant, dont j'oublie toujours le nom, avait, lui, la possibilité de lui rendre visite. Et pendant ces longues journées chez lui, Galilée écrivait beaucoup. Et en particulier, il a écrit ce livre, qui est le discours sur les deux nouvelles sciences, qui est en fait le fondement de la gravitation que Newton allait reprendre éventuellement pour en faire la grande théorie que l'on sait. Ce livre-là ne pouvait bien sûr pas être publié en Italie parce que Galilée était interdit de publication. Donc, il est passé sous le manteau jusqu'en Hollande où il a finalement été publié environ 4 ans avant la mort de Galilée en 1642. Et un des plus beaux hommages qu'on a rendu à Galilée, c'est le très, très grand Isaac Newton lui-même qui l'a fait et qui a dit « Si j'ai pu voir si loin en parlant de ses propres théories, en particulier de la gravitation universelle, c'est parce que je me tenais sur les épaules de géants. » Et un de ces géants auxquels il rendait hommage, c'est Galiléo Galilei. Alors, 400 ans plus tard, quel est l'héritage que nous laisse Galilée? Ben, c'est un héritage extraordinaire, incommensurable. C'est un héritage qui a changé nos vies. J'en veux pour preuve les grands observatoires astronomiques qui, de nos jours, nous permettent de voir toujours plus loin dans l'univers. Le télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic, le télescope Canada-France-Hawaï, qui est un instrument déjà âgé, mais qui continue à faire un travail d'observation crucial et de très, très grande qualité. Le télescope Gemini, qui est un des plus grands télescopes au monde, un télescope dont le miroir mesure 8 mètres de diamètre. Comparez ça avec la petite lentille du télescope de Galilée, ça vous donne une idée du chemin qu'on a parcouru. Mégantic, CFH, Gemini Nord et Sud, parce qu'il y a le même instrument au sommet du Mauna Kea et dans le nord du Chili. Ce sont des instruments auxquels les astronomes canadiens ont accès. Et c'est la qualité de ces instruments-là qui font des astronomes canadiens parmi les meilleurs au monde. Chaque année, dans les classements de ceux qui publient le plus, qui sont le plus souvent cités, vous avez les Américains, les Britanniques, les Australiens et les Canadiens dans le peloton de tête. Nous avons depuis plus de 50 ans accès à l'espace et nous avons aussi des télescopes dans l'espace. Vous connaissez tous le grand télescope spatial Hubble, le célèbre télescope spatial Hubble, qui va éventuellement être remplacé par le télescope que vous voyez ici, c'est le James Webb Space Telescope, qui est un instrument donc qui s'affranchit de la turbulence atmosphérique pour nous donner une vision de l'univers parfaite, en particulier dans des domaines de longueur d'onde qui ne sont pas accessibles depuis la surface de la Terre parce que l'atmosphère terrestre bloque ce genre de radiation-là. C'est particulièrement vrai du James Webb dans l'infrarouge. Pardon, excusez-moi. Alors, bien sûr, les instruments dont je vous parle sont des instruments qui existent, qui sont sur le point d'être lancés. Mais déjà, sur les tables à dessin, les ingénieurs et les astronomes réfléchissent à une nouvelle génération d'instruments. Et là, on parle de télescopes comme celui-ci, un télescope de 30 mètres de diamètre, 30-meter telescope. Je pense que c'est à peu près le diamètre de la salle ici. Les Américains, qui veulent toujours être celui qui fait pipi le plus loin, travaillent sur un instrument qui mesurerait 50 mètres de diamètre, un immense télescope, mais qui nous donnerait accès encore plus loin dans l'univers. Parce que la question, vraiment, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on se donne toute cette peine? Quel est l'avantage d'avoir des télescopes de plus en plus grands? Bien, il faut comprendre que les télescopes, ce sont des machines à voyager dans l'espace. Lorsque vous observez une galaxie lointaine, c'est comme si vous vous en rapprochiez. Et donc, littéralement, c'est comme si nous allions sur place pour observer cette galaxie. Mais les télescopes, ce sont aussi des machines à voyager dans le temps. Parce que la lumière ne voyage pas instantanément. Lorsqu'on regarde une étoile qui est située à 4 années-lumière de nous, ça veut dire que sa lumière a pris 4 ans pour nous parvenir. Et donc, nous la voyons telle qu'elle était il y a 4 ans. S'il s'agit d'une galaxie qui est à 2,4 millions d'années-lumière de nous, comme la galaxie d'Andromède, bien, nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,4 millions d'années. Et plus nous observons loin dans l'espace, plus nous observons tôt dans l'histoire de l'univers. Et ce sont les télescopes qui nous ont permis, en observant toujours plus loin dans l'univers, de comprendre que l'univers a une histoire, qu'il est né du Big Bang, qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu un refroidissement, formation d'étoiles, de galaxies, de planètes et éventuellement apparition de la Terre et de la vie sur notre planète. C'est le télescope qui nous a permis de raconter l'histoire de l'univers qui est aussi notre histoire. Pour célébrer cet instrument de découverte extraordinaire, l'année mondiale de l'astronomie a été instaurée en 2009. Et en particulier, les astronomes amateurs ont été mis à contribution. L'objectif de l'année mondiale de l'astronomie, partout dans le monde, mais particulièrement au Canada et au Québec, c'était de permettre au plus grand nombre de gens possible de vivre une expérience en rapport avec l'astronomie, ce qu'on a appelé un moment galiléen. Alors bien sûr, ça peut être l'observation du ciel au télescope, ça peut être assister à une conférence donnée par un illustre astronome, ça peut être louer un film de science-fiction comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ça peut être lire un livre d'astronomie, ça peut être visiter un planétarium comme le Planétarium de Montréal. Bref, toutes ces expériences-là, cette année, sont multipliées de sorte que le plus de gens possible aient l'occasion de vivre un moment où l'astronomie vient à eux. Et c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les moins jeunes. Les photos que je viens de vous montrer ont été prises lors de la toute première soirée d'observation que nous avons organisée à Montréal pour l'année mondiale de l'astronomie. Pardon, c'était à la fête des neiges, il faisait à peu près moins 250 degrés. Ce qui n'a pas empêché plus de 2000 personnes de venir à nos télescopes, de regarder la Lune, Vénus, les phases de Vénus, des étoiles, des galaxies, presque du centre-ville de Montréal. Et vraiment, ces gens-là sont repartis avec des étoiles dans les yeux. L'objectif, ce n'est pas d'en faire des astronomes professionnels, ni même amateurs. C'est simplement de leur rappeler que le ciel est là au-dessus de leur tête, même à cause de la pollution lumineuse qui nous empêche parfois de l'observer, et que le ciel, il est gratuit et accessible à tous, pour peu qu'on se donne la peine de lever les yeux au ciel. Depuis le début de l'année mondiale de l'astronomie, donc le 1er janvier 2009, nous avons multiplié ce genre d'activités. Et l'objectif canadien, c'était de permettre à 1 million de personnes, durant l'année, de vivre un moment galiléen. Et je peux déjà vous dire qu'au début du mois d'octobre, on avait déjà près de 800 000 de ces moments galiléens qui avaient été vécus à travers le pays. Donc, on est confiant d'atteindre l'objectif du million. Et ce qui est très intéressant pour les astronomes amateurs et professionnels québécois, c'est que de ce nombre, 40 % de ces moments galiléens, 400 000 ont été vécus, en fait un peu moins de 400 000, ont été vécus ici au Québec, alors que nous ne représentons que 23 ou 24 % de la population canadienne. Donc, c'est tout à l'honneur du dynamisme des astronomes amateurs d'ici qui ont réussi vraiment à faire de l'année mondiale de l'astronomie un très, très grand succès. J'ai un cadeau pour vous. Avant que vous ne repartiez de ma conférence. Ce sont des astrocartes. Alors, vous en avez une ici à l'écran, j'en ai quelques exemplaires ici. Et en fait, elles vont être déposées, c'est ça, sur une table qui est à l'arrière. Alors, ces astrocartes, c'est un peu comme des cartes de hockey, sauf que ce n'est pas des étoiles de la Ligue nationale qui sont dessus, ce sont des objets astronomiques. Il en existe 7 différentes, alors « collect them all », comme on dit. Et ces cartes-là sont remises aux gens lorsqu'ils vivent un moment galiléen. Alors, de toute évidence, ce soir, vous avez assisté à une conférence sur l'astronomie. Vous avez droit à votre petite carte. Vous pouvez tricher puis prendre un exemplaire de chacune de celles qui sont là. Et lorsque vous aurez votre astrocarte, pardon, excusez-moi, je viens de voler le punch, allez à l'endos de la carte, vous allez trouver une adresse Internet. Vous allez sur le site Internet et vous inscrivez votre nom, comme quoi vous avez vécu un moment galiléen. Je ne me souviens pas s'il vous demande de décrire quel était l'événement, mais vous direz « excellente conférence de Pierre Chastonnet ». Et une fois que vous vous serez inscrit, votre nom va être ajouté à une liste de tous ceux et celles qui auront fait la même démarche que vous. Et au tout début de 2010, ces noms-là vont être placés sur une micropuce qui va être embarquée à bord de ce satellite qui s'appelle NEOSAT et qui va être lancé par l'Agence spatiale canadienne en 2010. Et donc, participer à une soirée d'observation, une conférence, aller voir un spectacle, prendre votre carte et vous inscrire sur le site Internet demeure une excellente façon de vous envoyer en l'air. Je vous remercie beaucoup et bien sûr, j'attends vos questions. J'ai fait une conférence devant des enfants il y a à peu près 2-3 semaines. J'ai fait cette même blague-là. Puis, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je me suis un petit peu échappé. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame là-bas.
On
C'est une très, très bonne question. Effectivement, votre question est pertinente parce que je pense que l'agence... l'ESO, donc l'Observatoire européen austral, avec un instrument monté sur un de leurs télescopes au Chili, en ont découvert, je pense, 15 ou 20 là, au cours, ou enfin, ont annoncé la découverte de 15 ou 20 nouvelles exoplanètes. Alors, pour savoir de quoi on parle, une exoplanète, c'est une planète, mais qui est en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil. Et la raison pour laquelle on a commencé à les découvrir qu'en 1995, ce sont deux astronomes suisses, Didier Queloz et c'est Michel Mayer et Didier Queloz, qui ont fait la première découverte d'une planète extrasolaire. C'était 51 de Pégase en 1995. C'est que il est extrêmement difficile de voir une exoplanète parce que les exoplanètes n'émettent pas de lumière. Ils ne font que réfléchir la lumière qu'ils reçoivent de leur étoile. Et de notre point de vue, lorsqu'on regarde une exoplanète autour d'une étoile lointaine, ben, les deux sont pratiquement collés l'une sur l'autre. Et donc, ça devient aussi difficile que d'essayer d'observer une mouche ou un maringouin qui serait posé sur un gros lampadaire. On est aveuglé par le gros lampadaire et par conséquent, le maringouin, on ne le voit pas. Dans le cas des exoplanètes, c'est un peu le même problème. La façon dont on les détecte, ce n'est pas par une observation directe. Parce que l'exoplanète est en orbite autour de son étoile et qu'elle a une certaine masse, elle exerce une influence gravitationnelle sur l'étoile. Et par conséquent, de notre point de vue, lorsqu'on regarde l'étoile, on constate qu'elle est animée d'un léger mouvement de va-et-vient le long de notre ligne de visée. Et ce léger mouvement de va-et-vient est dû au mouvement orbital de la planète autour de l'étoile. Avant 1995, nous n'avions pas d'instruments suffisamment précis et sensibles pour détecter ce va-et-vient qui, dans le cas d'une planète comme Jupiter, est de l'ordre de quelques dizaines de mètres. C'est vraiment pas grand-chose. Mais à partir de 1995, on a réussi à le faire. Et une fois qu'on a démontré qu'on pouvait le faire et qu'on était capable de trouver des planètes, bien, à partir de là, c'est comme si on avait ouvert les vannes et le nombre de planètes observées est devenu de plus en plus important. Ceci étant dit, récemment, on a commencé à observer visuellement des planètes extrasolaires. Et un très bel exemple de ça, c'est la découverte autour de HR8799, si je me souviens bien. Mais bref, ce sont trois astronomes québécois qui ont fait cette découverte. C'était l'an dernier. Ils étaient d'ailleurs les scientifiques de l'année de Radio-Canada pour 2008. C'est Doyon, Marois, Lafrenière, qui, eux, grâce à une technique tout à fait nouvelle qu'ils ont inventée, sont capables de photographier un système planétaire et de soustraire l'étoile. Ce qui fait qu'on n'est plus aveuglé. Ça a l'air magique, mais en fait, c'est très scientifique, c'est très technique. Et bref, on n'est plus aveuglé. Et là, ils ont été capables de voir non pas une ni deux, mais bien trois étoiles, trois planètes autour de cette étoile. Et donc, les façons de détecter des planètes extrasolaires deviennent de plus en plus sophistiquées. Une autre façon de détecter une planète extrasolaire, c'est d'observer une étoile. Et si on a la chance que la planète passe devant l'étoile et l'éclipse en partie, bien, on voit une légère diminution de sa brillance, très périodique, très régulier. Et de cette manière-là, on peut non seulement détecter qu'il y a une planète, mais on peut même mesurer le diamètre de la planète par la diminution d'intensité lumineuse de l'étoile. On est rendu à plus de 400 exoplanètes connues. Et plus on cherche et plus on raffine nos techniques, plus on en trouve. Alors, ça nous amène à penser, c'est une hypothèse, ça demeure à être vérifié, mais ça nous amène à penser qu'il y a probablement plus de planètes dans l'univers qu'il y a d'étoiles. Donc, le système solaire, avec son cortège de planètes, n'est peut-être plus, comme on le pensait il y a 20 ou 30 ans, une exception, mais c'est probablement la règle. On n'a pas encore trouvé de planètes de la taille de la Terre, ceci étant dit, parce que les planètes que l'on trouve sont en général des grosses planètes, donc très massives, situées près de leur étoile, ce qui fait que le mouvement de va-et-vient de l'étoile est plus grand et plus facile à détecter. Mais des nouveaux instruments qui ont été mis en orbite, dont le satellite Kepler, qui a été mis en orbite il y a quelques mois et qui va commencer ses observations ces jours-ci, a été conçu pour justement être capable de détecter des planètes de la taille de la Terre autour d'exoplanètes, d'autres étoiles. Alors, d'ici quelques mois ou quelques années, on devrait avoir de très, très bonnes nouvelles à annoncer. Puis, si je peux me permettre, parce que c'est absolument passionnant toute cette histoire, c'est que le jour où on va détecter une planète de la taille de la Terre autour d'une autre étoile, on est en train de développer des techniques qui nous permettent d'analyser la composition chimique de ces planètes-là. Et en particulier, si c'est une planète de type terrestre qui est entourée d'une atmosphère, on va être en mesure de détecter si dans cette atmosphère, il y a de la vapeur d'eau, de l'oxygène, de l'ozone, du méthane, du gaz carbonique, qui sont sur Terre des traceurs de l'activité biologique. Et donc, on pourrait, par cette manière d'observer, détecter si sur ces planètes de type terrestre, il y a de l'activité biologique. Et donc, ça pourrait répondre à la grande question « Sommes-nous seuls dans l'univers? » Peut-être plus tôt qu'on pense. Merci pour votre question. Oui. C'est-à-dire que si la Lune avait une atmosphère, ce serait beaucoup plus facile de détecter s'il y a de l'eau parce qu'à cause des échanges gazeux, on trouverait de la vapeur d'eau. Est-ce que tout le monde a compris la question? Donc, la question, c'était comment peut-on être sûr qu'on va trouver de l'eau sur d'autres planètes si on n'est même pas sûr, même pas capable d'en trouver sur la Lune? C'est essentiellement ça. Et ma réponse tient au fait qu'on ne pense pas trouver de l'eau sur la planète comme telle, mais on pense détecter la présence de vapeur d'eau dans son atmosphère. Et s'il y a une quantité appréciable de vapeur d'eau dans l'atmosphère d'une planète, ça veut dire qu'il y a probablement des échanges gazeux qui se font avec une surface liquide, un océan, des lacs, peu importe. Et donc, indirectement, c'est comme ça qu'on trouverait de l'eau sur ces exoplanètes. Dans le cas de la Lune, parce qu'elle n'a pas d'atmosphère, bien, il n'y a pas cette enveloppe de gaz qu'on peut analyser facilement. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'envoyer des projectiles sur la surface lunaire pour soulever le sol et puis peut-être voir de la vapeur d'eau dans les détritus ou les restes de l'explosion. D'ailleurs, cette expérience-là vient tout juste d'avoir lieu, c'est L-Cross, et puis les résultats ne sont pas encore connus, on verra. Oui? Oui, en fait, bon, c'est ça. Non, faites attention, il y a une faille dans votre raisonnement. C'est-à-dire que oui, vous avez raison de dire que Galilée connaissait la trigonométrie, c'est un très bon mathématicien. Il était au courant des travaux de Kepler qui plaçaient les planètes non pas sur des orbites circulaires, mais des orbites elliptiques. Il était copernicien, c'est-à-dire qu'il considérait que les planètes tournaient effectivement autour du Soleil. Il était capable, et effectivement, Copernic lui-même avait donné une façon de faire pour mesurer le diamètre des orbites de Mercure et de Vénus, par exemple. Sauf que ces mesures-là étaient des mesures relatives, exprimées en termes du rayon de l'orbite terrestre. Mais il ne connaissait pas la valeur en lieues ou en kilomètres ou en milles de la distance Terre-Soleil, qui était un peu l'étalon qu'il cherchait à mesurer pour ensuite connaître les distances de toutes les autres planètes. Et en fait, le premier à réussir la mesure de cette distance Terre-Soleil, qu'on appelle l'unité astronomique, c'est Jean-Dominique Cassini. Ça, c'était presque un siècle après Galilée, là, si mes dates sont dans le bon ordre. Et lui, ce qu'il a fait, Cassini, c'est qu'il est resté à l'Observatoire de Paris pour observer Mars lors d'une opposition. Donc, au moment où Mars est au plus près de la Terre, ça arrive à peu près à tous les 24 mois. Et il a envoyé un de ses assistants, Jean Richer, observer le même phénomène en Guyane française. C'est très drôle d'ailleurs parce qu'à cette époque-là, on envoyait les étudiants gradués au loin parce que les voyages étaient extrêmement dangereux puis on risquait de pas en revenir. Alors que si c'était le cas aujourd'hui, Jean Richer resterait à Paris, puis Jean-Dominique Cassini serait sans doute en Guyane, les pieds dans le sable. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, Cassini et Richer ont fait la même observation au même moment, mais de deux points différents de la surface de la Terre. Et eux, par trigonométrie, ont réussi à mesurer la distance entre Mars et la Terre à ce moment-là. Et connaissant cette distance-là, ben là, il était capable de calculer la distance Terre-Soleil et de là découlaient toutes les autres distances dans le système solaire. Mais ça, Galilée ou Kepler n'auraient pas pu le faire parce qu'ils n'avaient pas d'instrument d'observation suffisamment précis pour le faire. Oui?
J'aimerais savoir, avec les futurs super télescopes, s'il va être possible de connaître le tout début du Big Bang.
Est-ce qu'avec les télescopes dont j'ai parlé, il va être possible de connaître les débuts du Big Bang? La réponse est non. Pour la simple et bonne raison que le Big Bang, du moins dans la théorie telle qu'elle est conçue aujourd'hui, le Big Bang est un événement extrêmement violent où l'univers était extrêmement chaud, extrêmement dense, extrêmement tout ce que vous voulez. Et pendant environ 300 000 ans après le Big Bang, l'univers était essentiellement opaque, dans le sens que un rayon de lumière ne pouvait pas voyager sur une grande distance sans être absorbé, réémis dans une autre direction. C'est un peu comme si l'univers avait été dans une espèce de brouillard très, très, très épais dans lequel vous n'auriez même pas été capable de voir le bout de votre nez. Donc, les 300 premiers milliers d'années de l'histoire de l'univers, il n'y a pas de lumière qui nous en est parvenue parce que la lumière était constamment absorbée, réémise et dirigée dans toutes les directions. Et c'est seulement après 300 000 ans après le Big Bang que l'univers est soudainement devenu transparent parce qu'à ce moment-là, il s'est produit un épisode de recombinaison où les électrons se sont raccrochés aux atomes et à ce moment-là, la lumière pouvait voyager librement. Et les plus vieux rayons de lumière, les plus vieux photons que nous avons de l'univers nous viennent de cette période-là. Et c'est ce qu'on appelle le rayonnement cosmologique à 3 degrés Kelvin dont vous avez peut-être entendu parler. Tout ce qui s'est passé avant ça, on pourrait peut-être sonder l'état de l'univers grâce aux neutrinos ou à d'autres particules exotiques mais qui ne sont pas détectables par des télescopes comme celui-ci, qui sont détectables par d'autres types d'instruments comme, les détecteurs qu'on enfouit sous la terre dans des mines de nickel, c'est rempli d'eau lourde, puis j'ai comme un blanc de mémoire, là, mais bref, ce genre d'instruments-là peuvent nous renseigner sur les premiers moments de l'univers. Les grands télescopes comme le James Webb, comme le télescope de 30 mètres, de 50 mètres, vont nous permettre d'observer plus loin que là où nous observons actuellement, une période qu'on appelle l'âge sombre, ou le Moyen Âge, ou the Dark Ages en anglais, entre ce moment de 300 000 ans où l'univers est devenu transparent et la formation des premières étoiles ou des premières galaxies. Cette région-là de l'univers, qui correspond à peu près aux premiers 10 ou 15 millions d'années de l'univers, est très, très mal connue. Et c'est une des choses que l'on veut faire avec ces grands télescopes, sonder cette région-là qui correspond à une période où il y a beaucoup d'inconnus en ce qui concerne notre théorie de l'évolution de l'univers. Puis ça, c'est ce qu'on pense découvrir, mais il va sans dire qu'il y a plein de choses qu'on risque de découvrir auxquelles on ne s'attend même pas. À chaque fois qu'on a mis en service un nouveau télescope qui était plus grand que les générations précédentes, on a toujours découvert des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ça a été vrai pour Palomar, ça a été vrai pour Hubble, ça va être vrai pour ces grands télescopes certainement. James Webb, en fait, c'était l'administrateur de la NASA à l'époque des missions Apollo. Oui, c'était sans doute pas ça votre question. Bon, excusez-moi. Non, en fait, la question, c'est le télescope James Webb va être lancé très loin de la Terre. Vous avez raison, contrairement au télescope spatial Hubble qui était en orbite à 300 km au-dessus de nos têtes. James Webb va être envoyé à un point qui gravitationnellement correspond à un endroit neutre où la gravitation de la Lune, du Soleil et de la Terre font que le télescope va être à l'abri des perturbations gravitationnelles. Et à la distance à laquelle ça se trouve, je ne pourrais pas vous dire, je n'ai pas le chiffre en tête, mais c'est loin. Exactement, je ne voulais pas utiliser le terme technique, mais c'est un des points de Lagrange, effectivement, du système Terre-Lune-Soleil. Et pour répondre à votre question, malheureusement, non, on ne pourra pas le réparer. Si jamais rendu sur place, on le déploie, puis il s'avère qu'il y a un problème, c'est Fireball. Contrairement au télescope spatial Hubble, qui, lui, est encore accessible grâce aux navettes, et la preuve, c'est qu'il y a eu plusieurs missions de réparation depuis qu'il a été lancé, dans le cas de James Webb, c'est un one-shot deal. Et si jamais on rate notre coup, ben, il y a sûrement des gens qui vont perdre leur job à la NASA. Il y avait une main levée derrière. Peut-être que ça va être la dernière question. Oui? Il n'y a pas de code d'habitude, mais bon. Ah, ben c'est bien gentil, vous les saluerez. C'est une très bonne question. J'en ai aucune idée. Peut-être que c'était une pratique courante à l'époque, parce que Galilée était l'aîné des fils, donc peut-être que... Écoutez, moi, quand j'étais petit, il y avait pas très loin de chez moi un restaurant grec dont le propriétaire s'appelait Limperis. Alors... Ben, il y a Abdullah, puis je pense qu'on pourrait trouver d'autres exemples, exactement. Non, mais je n'ai pas de réponse à votre question, malheureusement. Et c'est une bonne question d'enfant. Ben, merci beaucoup. Oui, ben, peut-être une dernière. Allons-y.
C'est encore une question depuis que je suis gamin qui m'amenait à l'astronomie. Pourquoi la Terre, il y a une rotation, la Lune n'a pas de rotation?
Ben, c'est parce que vous avez tort. La Lune tourne sur elle-même. Voulez-vous que je vous le démontre? Vous avez posé la question, vous allez subir les conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la rotation? Comment est-ce qu'on définit la rotation? De mon point de vue, si je vous regarde et que je ne bouge pas, je ne tourne pas sur moi-même. Je ne suis pas en rotation. Par contre, si je tourne et que successivement je vois les quatre murs de la pièce, je suis en rotation, j'ai fait un tour sur moi-même. Vous êtes d'accord avec moi? Parfait. Alors, monsieur, vous allez venir ici. Vous allez jouer le rôle de la Terre. Vous êtes un bel astre massif. Alors, regardez ce qui se passe, puis vous pouvez vous tourner vers moi pour me suivre. Regardez ce qui se passe si je tourne autour de vous, mais que je ne tourne pas sur moi-même. Et donc, je fais toujours face au même mur. Non, regardez. Là, je tourne autour de vous, mais je ne tourne pas sur moi-même. Donc, vous m'avez vu la face. Là, vous me voyez l'arrière de la tête, n'est-ce pas? Vous me voyez l'oreille gauche, l'oreille droite, successivement.
C'est comme les phases de la Lune.
C'est autre chose. Les phases de la Lune, c'est une autre affaire. On pourra en reparler dans quelques instants, mais ne confondez pas. Donc, j'ai fait un tour autour de vous, mais je n'ai pas tourné sur moi-même. Et là, vous avez vu tout le tour de la Lune. Je vais faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, je vais faire un tour sur moi-même, dans le même sens et en même temps que je tourne autour de vous. Puis regardez ce que ça donne. J'ai toujours la même face tournée vers vous. Essentiellement, si je décompose le mouvement, c'est comme si je faisais un quart de tour autour de vous et un quart de tour sur moi-même. Et là, vous pouvez vous tourner pour me regarder. Vous me voyez encore le visage. Et là, si je continue le même mouvement, vous voyez toujours la même face. Et ça, ce n'est possible que si la Lune tourne sur elle-même. Exactement. Exactement, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, ce n'est pas une coïncidence que la Lune nous présente toujours la même face. C'est un phénomène qu'on retrouve ailleurs dans le système solaire pour les lunes de Jupiter, pour Mercure et Vénus qui sont situées près du Soleil. C'est un phénomène qu'on appelle la résonance gravitationnelle. C'est essentiellement que depuis plusieurs milliards d'années que ces objets-là tournent autour du Soleil ou que la Lune tourne autour de la Terre. Éventuellement, les deux objets se sont arrêtés dans une position qui, d'un point de vue gravitationnel, est une position d'énergie minimum. Et pour la Lune, ça correspondait à nous présenter toujours la même face et à synchroniser son mouvement de rotation et son mouvement de révolution. Alors voilà qui répond, j'espère, à votre question. Merci. Tout à fait. C'était clair pour les anciens aussi que la Lune tournait autour de la Terre. C'était le premier objet qui était le plus près de nous dans l'ordre des planètes dans le système de Ptolémée. Merci encore.